c'est quoi un privilège? C'est quelque chose qui n'est pas censé être dû, je pense.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous accueillir dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses notions. Et aujourd'hui, si la notion n'est pas nouvelle, le regard qu'on va porter dessus l'est. Grâce à notre invitée, une philosophe dont le nouveau livre contient la révélation que Cyril, notre rédacteur en chef, attendait, la révolution de 1789 n'a pas aboli les privilèges. Un coup dur pour les partisans de l'égalitarisme, une aubaine pour Cyril que son boucher, certainement un légitimiste, appelle toujours Monsieur de la Carrière. Car oui, en 1789, le trisaïeul de Cyril, le baron Edmond de la Carrière, se voyait offrir un choix par le tribunal révolutionnaire, l'exil en Angleterre ou la guillotine. Droit dans ses bottes, Edmond avait lancé à Robespierre « plutôt crever que bouffer du gigot à la menthe ». Une rectitude morale qui est la marque des la Carrière. Une famille qui, en reniant sa particule, a réussi à se fondre dans les masses populaires, quittant les ors de Versailles pour les bas-fonds de Ponto-Combo, où le petit Cyril a grandi dans la nostalgie de ses privilèges qui lui paraissent quand même la moindre des choses, comme la création de cette file prioritaire réservée aux gens d'antenne qu'il appelle de ses voeux à la cantine de Radio France.
Oui.
Une entreprise qui, hélas, par son caractère public, semble peu encline à la réintroduction de tels privilèges. Mais voilà, alors même que Cyril s'apprêtait à déposer les armes, à renoncer à l'organisation de ses soirées fleurs de lys, où chaque jeudi, il réunissait dans une crypte de Saint-Germain des militants royalistes bien décidés à mettre Louis XXII sur le trône et à reprendre Jérusalem aux Sarrasins. Alors même que Cyril allait enfin accepter qu'il était un citoyen comme les autres, voilà qu'il découvre un livre qui lui explique que les privilèges n'ont pas été abolis en 1789. On lui aurait menti, mais alors, que s'est-il passé? Et qui sont les privilégiés aujourd'hui? Cyril réagit juste à sa chevalière et Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
C'est une très très bonne idée, cette file, pour les gens de l'antenne.
Oui, je sais, c'est votre idée. C'est votre idée, Cyril.
Ouais, c'est clair.
Tout le reste ne le choque pas, il n'y a que ça.
Oui, moi, le reste.
Alice de Rochechouart, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue chez nous sur France Inter cet après-midi. Vous êtes philosophe, créatrice du podcast Le Fil d'Actu. Vous avez publié il y a quelques semaines Privilèges, ce qu'il nous reste à abolir aux éditions J.C. Lattès. Vous allez nous expliquer pourquoi les privilèges se sont transformés et continuent d'organiser nos rapports sociaux plus de 200 ans après leur abolition. Juste le temps de vous présenter deux roturiers qui doivent beaucoup à 1789. Car sans 1789, l'un serait en train de labourer un champ de patates du côté d'Alençon. Il serait d'ailleurs probablement un alphabète, baragouinerait un obscur sabir banormand et aurait les plus grandes difficultés à s'exprimer en français, alors qu'aujourd'hui...
La boulangerie, c'est un lieu de vie où se croisent toutes les générations, et c'est d'ailleurs
Quant à l'autre... Quant à l'autre, sans la révolution de 1789, elle serait certainement une gamine perdue des faubourgs, l'équivalent féminin de Gavroche, Marianoche. Elle vivrait de menus larcins dans les ruelles derrière Bastille et ferait la quête sur les quais du port de l'Arsenal.
Madame Ginette.
C'était jeudi dernier.
Hein.
C'est un enregistrement samedi soir pour son anniversaire. Fin de soirée. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour
à tous.
Bonjour Mathieu.
Manon, chaque après-midi, j'aime bien quand vous avez ce petit ton un peu comme ça, flagorneur avec moi. Ça me plaît bien.
Pas de problème.
Manon, chaque après-midi, vous nous livrez une pièce jointe concernant notre sujet du jour.
Et aujourd'hui, une série qui nous parle de privilèges puisqu'elle nous plonge dans la vie d'une famille aristocratique anglaise dans les années 20. Oui,
oh,
Mathieu, vous l'avez.
J'adore. Oui. Et vous, est-ce que vous aussi, vous trouvez que les privilèges structurent encore notre société en 2025? Vous sentez-vous privilégié vous-même, forcément, puisque vous avez déjà eu le privilège de croiser Quentin, le prince du micro-trottoir.
Le petit prince, peut-être. Et je me suis arrêté dans un quartier, disons un quartier de privilégiés, le 7e arrondissement. Est-ce qu'on a toujours conscience que nous sommes des privilégiés? Réponse dans la prochaine demi-heure, dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, nous partirons à la découverte des privilèges insoupçonnés que notre belle société capitaliste sait offrir à ceux qui s'en donnent les moyens. Qu'y a-t-il au-dessus de la carte Platinum d'American Express? De quel abonnement très particulier, réservé à seulement 17 personnes dans le monde, bénéficie Bill Gates? Par quelle sombre combine Quentin, lui, employé du service public, a-t-il pu dernièrement s'offrir des baskets Balenciaga à 1000 euros? Réponse dans le Zoom Zoom Test.
Oui, on la connaît, la combine.
Comment ça vous allez offrir?
Qui vous a offert ça? Oui. Balenciaga qui vous a envoyé des
chaussures?
Allez, on
marche.
Oui, c'est de la corruption.
J'avais pas les moyens.
On appelle Rachida Dati. Bon, bref. juste avant 17h, nous serons rejoints par Marion Mésadorian. Après 17h, restez avec nous, surtout si, comme Quentin, vous carburez au bonbon. On zoomera avec sa réalisatrice sur une enquête choc sur le sucre. C'est diffusé sur Arte ce soir. Mais d'abord, Alice de Rochechouart, on va donc zoomer sur la persistance des privilèges dans notre société de 2025. Déjà, c'est quoi votre définition de privilège?
Alors, les privilèges,
privilèges, on peut les définir comme les avantages injustes. J'insiste sur le mot injuste parce que ça implique une idée de justice sociale. Donc les avantages injustes dont bénéficient certains groupes sociaux au détriment des autres. Et ces avantages, ces privilèges, ils révèlent des structures de domination au sein de notre société.
Et ce que vous dites, on va développer pendant une heure,
allons-y,
c'est qu'ils n'ont pas été complètement abolis, les privilèges, en 1789. De manière très visible, ils l'ont été. Mais en fait, ce qui structure notre société, les fondements de notre société, ça reste très basé sur les privilèges.
Absolument. Ce qu'on a aboli en 1789, le 4 août, c'est des privilèges de statut, des privilèges juridiques. Donc en fait, on a aboli les spécificités juridiques dont bénéficiait la noblesse, le clergé par exemple. La noblesse avait le droit par exemple à des fonctions diplomatiques, ne payait pas l'impôt. Donc c'est ces choses-là qu'on a abolies. En revanche, on n'a absolument pas touché aux structures sociales, et c'est-à-dire à la distribution des richesses. Et même bien plus, on a légitimé les inégalités de richesses, puisque le système qu'on a fondé à ce moment-là est un système où, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on dit qu'il peut y avoir des inégalités si ça contribue au bien commun. Donc c'est
oui,
une
c'est
manière
malin.
De dire, très malin, une manière de dire les inégalités c'est légitime, et aujourd'hui c'est de ça dont on hérite.
On va parler des privilèges avec vous. Lui, chaque fois qu'il passe place de la Concorde, là où son grand-papy Edmond a été raccourci par les sans-culottes, son cœur se serre. Foutus gauchistes, ils ont tout détruit. Même aujourd'hui, alors qu'on avait enfin un beau gouvernement, ils ont chassé Éric Woerth et Bruno Le Maire, se lamentait Cyril, avant que votre livre ne lui remonte un peu le moral. Cyril, racontez-nous, vous qui en savez long sur le sujet, les privilèges, d'où ça sort?
Eh bien, imaginez un pays où moins de 2% de la population possède près d'un quart des terres, où cette même population échappe à l'impôt, mais elle garde la main sur l'armée et la justice. Ce pays, c'est...
La France du général de Gaulle.
Alors oui, c'est la France, mais pas celle du grand Charles, c'est la France d'avant 1789. Les privilèges, ce sont ces avantages juridiques et fiscaux qu'on réservait à la noblesse et au clergé. Quant au tiers-état, lui, il travaille, il paye la dîme et il ne regarde même pas passer l'ascenseur social, puisque l'ascenseur social, eh bien, il n'existe tout simplement pas.
Mais ça, Cyril, c'était avant.
Et oui, avant la nuit du 4 août 1789. L'Assemblée nationale constituante vote la fin des privilèges féodaux, place à l'égalité républicaine. Pour autant, si le terme a été effacé, les privilèges, eux, persistent bel et bien. En 1989, 200 ans plus tard, la chercheuse américaine Peggy McIntosh publie un livre où il est question d'un autre genre de privilège, ceux des personnes blanches. Son livre s'intitule « Le privilège blanc, déballer le sac à dos invisible ». Et puis la notion se décline, les privilèges de classe, les privilèges masculins, les privilèges liés à l'orientation sexuelle, etc., etc. Preuve que les privilèges n'ont pas disparu. Alors d'où sortent-ils? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Alice de Rochechouart, vous dites que l'abolition des privilèges ne les a pas supprimés, elle les a rendus invisibles. Ça veut dire quoi?
Eh bien comme on a aboli les différences juridiques et qu'on a instauré l'universalité du droit, c'est-à-dire un système où normalement tout le monde est égal devant la loi, on a l'impression qu'il n'y a plus de privilèges. Puisque finalement, le droit est le même pour toutes et pour tous.
Juridiquement, il n'y en a plus.
Juridiquement, il n'y en a plus. Or, c'est quand même la définition principale du privilège, comme vous l'avez rappelé, des avantages juridiques. C'est pour ça que ce qui se passe, c'est un espèce de tour de passe-passe au moment de la Révolution. C'est que, comme je le disais, on n'a pas changé les structures. Donc, il reste encore des structures d'inégalité, ce que j'appelle privilège dans le livre.
Mais comment on change ces structures? Parce qu'autant juridiquement, on peut changer facilement les lois, on peut changer la Constitution, mais changer des manières de penser, des choses qui sont des héritages. Quand on est fils de bourgeois, on va faire une bonne école. Comment on change ça?
Alors, il y a un peu de travail, hein, comme vous pouvez vous en douter. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le système politique qui est créé à la Révolution, le système représentatif dans lequel on vit actuellement, qui traverse, comme on le sait, une légère crise.
Un petit coup, un peu compliqué.
Ce système représentatif, il est considéré, au départ, il est créé pour être antidémocratique. L'idée, c'est... Oui, c'est, ça apparaît surprenant 200 ans plus tard. En fait, c'est vraiment une réflexion qui dit le peuple ne doit pas gouverner, parce que le peuple n'en est pas capable. Il doit être gouverné par une élite éclairée, une aristocratie de compétences, voilà. Et ça, c'est notamment l'ABCIS, qui est un des principaux instigateurs de l'abolition des privilèges, qui le défend. Pourquoi je remonte là? C'est parce que, dès le départ de la constitution de ce système, on décrète qu'il y a des hiérarchies entre les individus. Que certains individus méritent d'être citoyens, je le dis bien au masculin, hein, citoyens, et d'autres ne le méritent pas. Donc, la modernité politique est fondée sur l'idée que certains auraient le droit au pouvoir et la représentation, et d'autres non. Donc, la conclusion, elle s'impose évidemment. Il faut tout changer le système.
France Inter. Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël.
Et si les privilèges n'avaient pas été abolis en 1789, qu'ils étaient juste devenus invisibles? La philosophe Alice de Rochechouart est avec nous pour son livre « Privilèges, ce qu'il nous reste à abolir » qui vient de paraître aux éditions J.C. Lattès. Alice, dans votre livre, vous dites que la propriété et le mérite sont des privilèges gagnés par la bourgeoisie au moment de la Révolution française.
Oui, absolument.
Mais en quoi s'agit-il de privilèges, la propriété et le mérite?
Alors, c'est pas que il s'agit pas de privilèges en tant que tel, c'est juste que ce sont deux croyances, la légitimité de la propriété privée, qui est indiquée dans la Déclaration des droits de l'homme comme étant un droit inaliénable et sacré. Donc c'est vraiment érigé au rang de droit incontestable, et le mérite, qui est une valeur bourgeoise à ce moment-là, qui viennent ensuite légitimer les privilèges. C'est pas vraiment des privilèges en tant que tel, mais ce sont des... Alors la propriété privée va organiser tout le nouveau système, hein, comme on le disait, puisqu'il n'y a pas de redistribution véritablement des ressources. Donc on va dire que la propriété privée, y compris les écarts de richesse, sont quelque part légitimes, et ils sont légitimés par le mérite. Ce qu'on va dire, bah, chacun mérite sa place, en fait.
Mais le mérite, c'est flou.
Et le mérite, c'est flou. Alors, le mérite, donc ça, on arrive dans une ère qui s'appelle la méritocratie, hein, qui est vraiment quelque chose qu'on entend tout le temps revendiquer aujourd'hui, hein, pour décrire notre système.
Vous dites que c'est une dystopie, cette méritocratie.
Ah, c'est pas moi qui le dis. C'est qu'au départ, le terme de méritocratie, il a été inventé par un Britannique qui s'appelle Michael Young, pardon, et qui crée ce mot pour décrire une dystopie, dans un roman d'anticipation. Parce qu'il explique dans son livre, c'est une Angleterre du coup d'anticipation, où tout est régi par le mérite, et où finalement les gens deviennent absolument abominables, parce que chacun dit bah, en gros, marche ou crève, et tu le mérites, voilà, et qu'à la fin il y a une énorme révolte, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme a une destinée, où finalement ça redevient un terme positif qui est défendu, alors qu'au départ c'est une dystopie, et moi je pense qu'il avait assez raison quand on voit ce que le mérite crée aujourd'hui comme légitimation des inégalités.
Mais alors, quelle société faudrait-il construire si on ne met pas le mérite au centre de l'avancée sociale?
Et ben,
c'est
y a...
quand même un bel objectif, ça permet de se lever le matin, peut-être, parfois.
Bah, le problème du mérite, c'est qu'en fait, ça donne l'illusion... Déjà, ça a été contredit par 50 ans de sociologie, donc bon, déjà, on pourrait se dire que c'est une illusion. Et puis en fait, c'est un principe qui est assez injuste à y regarder de plus près. Parce que ça dit que les gens sont des individus intégralement responsables de leur situation. Qu'est-ce qui se passe quand vous naissez, par exemple, avec un handicap? Quand il vous arrive un événement de vie, vous l'avez mérité, ça? C'est assez injuste, en fait. Ça dit des choses. Et comme si on n'était pas, en fait, une espèce qui vit avec les autres. On ne se fait jamais tout seul. Voilà. Donc l'entraide pourrait être, par exemple, une valeur, une belle valeur qui remplacerait le mérite, à mon sens.
Ah oui, j'allais vous demander, le mérite, ça
par qu'on le remplace.
Ouais. Qu'est-ce qu'on substitue au mérite? L'entraide
L'entraide, la co-appartenance. Enfin, on pourrait imaginer une échelle de valeur complètement différente. Plutôt que de se dire, aujourd'hui, c'est le mérite, le travail acharné, celui qui gagne le plus d'argent possible, qui a mérité et qui doit finalement avoir le pouvoir, on pourrait dire, bah, peut-être, alors il y a plein de théories, par exemple, les théories du care, donc c'est les théories du soin, par exemple. Et bah, ça pourrait être une valeur, à mon avis, beaucoup plus intéressante pour fonder un nouveau système politique et un nouveau système social.
Il y a, une phrase sur laquelle j'aimerais rebondir parce qu'elle est d'actualité. Vous dites par exemple qu'il faudrait faire un tirage au sort pour désigner nos assemblées représentatives. En quoi elles seraient plus représentatives qu'avec un vote démocratique?
Alors, ce n'est pas une idée qui vient de moi, c'est une idée qui est mobilisée depuis assez longtemps par notamment le philosophe Jacques Rancière, dont je parle pas mal dans le livre. Ça s'appuie en fait sur la Grèce antique qui était présentée comme la première démocratie, ça on l'a toutes et tous appris à l'école. Et dans la Grèce antique, il y avait une assemblée qui était tirée au sort et ça permettait d'avoir... finalement que les charges de gouvernement, enfin d'élaboration des lois, tournent, donc que ce soit totalement égalitaire et qu'il y ait une véritable représentativité. Alors, on met des parenthèses, enfin pardon, des bémols. En Grèce antique, c'était que les hommes volontaires, hein, faut quand même pas exagérer. Mais aujourd'hui, on pourrait complètement imaginer une assemblée, il y en a eu, hein, la Convention citoyenne pour le climat, la Convention citoyenne sur la fin de vie, une assemblée comme ça, faite avec des citoyens, des citoyennes tirées au sort, qui représenteraient bah, justement des parties de la population qui sont aujourd'hui totalement oubliées ou totalement exclues et mises de côté de la citoyenneté et du monde politique actuel.
Vous dites qu'un privilège est un bénéfice qui s'inscrit dans un système de domination plus large. Cette domination dont vous parlez, elle est donc institutionnalisée pour vous?
Politiquement, vous voulez dire? Oui, absolument. En fait, ce qui se passe, et ça revient à ce que je précisais tout à l'heure sur l'origine du système représentatif, qui après a été gommé par un vernis démocratique. On nous dit aujourd'hui, la démocratie, c'est la représentation. Enfin, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Sauf que quand on regarde ce qui se passe avec la représentation, déjà, on voit que les personnes qui sont à l'Assemblée nationale, par exemple, ne sont pas du tout représentatives. 80% sont des personnes issues des classes supérieures, alors qu'elles ne représentent que 20% ou 24% dans la population. Donc,
Donc on voit bien qu'il n'y a pas de représentativité. Et ces gens-là vont évidemment défendre leurs intérêts. Et ça a été montré par des sciences politiques. Donc nous arrivons aujourd'hui à ce que Jacques Rancière, pour reparler encore de son travail, appelle un état de droit oligarchique. C'est-à-dire qu'on vit dans un état de droit. Il y a quand même des droits pour encadrer ce qui se passe. On ne sait pas complètement la dictature non plus. Mais oligarchique. Puisqu'aujourd'hui, c'est un petit groupe qui s'est arrogé le pouvoir. Et c'est en ça que la domination est totalement institutionnalisée.
Mais sauf que la grande différence par rapport à l'ancien régime, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, n'importe qui peut se présenter, par exemple, à une élection. Même si, peut-être, socialement, il n'y est pas conditionné. Mais sur le papier, tout le monde peut participer.
Absolument. Techniquement, c'est vrai. Et pas tellement, parce que ça demande quand même de l'argent, ça demande quand même des réseaux, ça demande d'être intégré au sein... Voilà, on sait très bien qui... il faut voir aussi comment sont accueillies à l'Assemblée nationale les personnes qui ne sont pas, justement, qui ne cochent pas toutes les cases des privilèges. Ils sont traités de racailles. Enfin, il y a souvent des cris racistes à l'Assemblée, ça se voit très très souvent. Et voilà. Et puis, il y a aussi un phénomène important qui est décrit, c'est que les personnes qui ne se sentent pas représentées vont moins aller voter. Donc il y a aussi un cercle vicieux qui s'installe de délitement de la démocratie.
Et vous pensiez vivre dans une société égalitaire, vous pensiez que le temps des privilèges était révolu. Quentin, toujours porteur de la bonne parole, est venu vous apprendre que non, pas du tout. Alors, Quentin, pas trop choqué, nos passants ?
Je marche dans un quartier chic de Paris. Les avenues sont propres, plutôt calmes, les arbres entretenus, même les pigeons sont beaux.
Oui, ne dites pas n'importe quoi.
Vous l'avez compris, nous sommes dans l'arrondissement de Rachida Dati, maire d'arrondissement qui se trouve aussi être notre ministre de tutelle démissionnaire. Je rencontre ce monsieur...
Les pigeons ont des colliers Bulgari, je crois. Dans le
quasiment, en tout cas, le pelage est magnifique. Le plumage, pardon.
Pelage.
Je rencontre ce monsieur. Chapeau melon, foulard rouge, barbe blanche.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Alain.
Alain, vous avez quel âge ?
80 et...
Et des poussières ?
Depuis le mois de mai. C'est pas vraiment des poussières à cet âge-là. Bon, allez. Les privilèges.
Est-ce que vous êtes un privilégié ?
Moi, je me sens un peu privilégié, oui. Je suis en bonne santé, j'ai fait une excellente carrière.
Vous êtes blanc ?
Ouais.
Hétérosexuel ?
C'est très sympa. Hétérosexuel, oui.
Eh ben ouais.
Ben voilà, mais c'est tous les critères, ça.
Il le reconnaît, il me parle du parcours de ses neveux, par exemple.
Quand vous faites X-Men, Elena, que vous parlez couramment trois langues, que vous habitez dans le 7e ou dans le 8e, c'est plus facile.
C'est bien d'en avoir conscience.
Ah oui, c'est nécessaire.
Mais il ne faut pas s'excuser non plus, c'est ça?
Ah non, non. Et puis s'excuser, c'est une faute de français. On présente des excuses, on ne s'excuse point.
On ne s'excuse point.
Encore une leçon pour vous, Quentin.
Alors qu'elle marche vite dans la rue, une pile de dossiers sous le bras, j'interpelle cette jeune femme.
C'est quoi un privilège ? C'est quelque chose qui n'est pas censé être dû, je pense.
Et pourtant, je lui demande si elle se sent privilégiée.
Je pense un peu, ouais. Bah, par contraste aux autres, le fait de vivre à Paris, déjà, je pense que c'est un privilège. Je fais un travail intéressant.
Ouais.
En revanche, je suis une femme. Ça m'enlève quelques privilèges. Il y a un plafond de verre dans le privilège.
Je lui demande à quel moment, dans son parcours, elle a vu des différences.
Alors par exemple, quand on est dans une grande fac parisienne, on voit bien les codes. Les codes qu'on a, que d'autres n'ont pas. L'écriture, la façon de s'exprimer.
Parce qu'en fait, l'héritage, il n'est pas que financier, il est une bibliothèque à la maison.
Ah, bien sûr, je pense que d'ailleurs, c'est un plus gros privilège parce que c'est plus facile, je pense, de gagner de l'argent... de se construire un bagage culturel, ça met plus de temps.
Vous marchez tout le temps vite comme ça ?
Pas tout le temps, mais aujourd'hui, quand je vous dis que je suis en retard, je suis vraiment en retard.
Alors que je reprends mon souffle, il faudrait que je reprenne un peu le sport, je sais, cette dame reconnaît mon micro France Inter.
Bonjour.
Vous avez le droit de le redire. Hein.
Ah, j'adore France Inter.
C'est vrai ?
J'écoute Londres.
Elle m'explique qu'elle vit entre Paris et Londres. Pour elle, ce serait quoi les privilèges ?
Quand j'étais plus jeune, je dirais les chaussures, le Vuitton,
les
super voyages, oui. Mais maintenant, je pense que c'est la santé, c'est l'amour. Mais c'est plus facile peut-être pour moi parce que je suis allée à une grande école, je suis une femme avec une peau blanche et j'ai de l'argent.
Je lui demande si ça lui arrive de culpabiliser.
Oui, les jours quand je râle... Ah oui, c'est dur pour moi, etc. Je m'appelle qu'il y a des femmes qui donnent naissance à leur enfant pendant une guerre. Qu'il y a des personnes qui se lèvent, qui n'ont pas de l'argent pour acheter quoi qu'il soit à manger.
Vous avez une
Bien
privilège
sûr,
alerte.
Oui, bah voilà, exact. Ouais.
Qui vous rappelle que ça va.
Ouais. En anglais, on dirait « check yourself ».
Ici, je rencontre Clara, issue d'un milieu plus modeste, mais qui fait ses études à Paris et qui, comme le dit si justement Jean-Jacques Goldman, à coups de livres a franchi tous ses murs. Je lui raconte mes rencontres et ça l'énerve.
Oui, bien évidemment. Enfin, je trouve que c'est pas juste parce que ces gens-là n'ont pas de mérite.
Mais c'est un peu dur parce qu'ils peuvent, ils peuvent être bien nés et avoir quand même, je sais pas, du talent et réussir à...
Oui, mais du coup, c'est compliqué de savoir à quel point il y a une part de talent et une part de... Enfin, bien sûr, ils peuvent avoir une part de talent, mais de toute façon, ça va être faussé dès le début.
Je lui demande comment on abolit ce système pour elle et s'il faudrait, par exemple, une révolution.
Oui, clairement, mais je pense que c'est compliqué.
Comment on l'a fait ? Pacifiquement ?
Pour moi, non. Parce que les gens qui sont au courant, enfin, qui ont mis en place ce système, et certains sont, enfin, ils sont très au courant que, comment dire, la méritocratie n'existe pas, que le système est biaisé, et ils font style que si, tout le monde peut arriver à, si t'as les capacités, tu peux. Donc pour moi, ces gens-là sont juste de mauvaise foi. Et ces gens-là, il faut, c'est pas en parlant qu'on va les convaincre. C'est en leur faisant peur.
Tout le monde le sait. Au fond, les privilèges ne sont plus un secret, ils sont un système. Et à force de creuser l'écart, certains ne cherchent plus forcément la justice. Ils attendent peut-être simplement la prochaine révolution.
Merci Quentin. Beaucoup de témoignages forts, dont certains fichus les miquettes à notre rédacteur en chef Cyril Lacaire, qui tremble de ces jeunes révolutionnaires qui vous ont parlé. Beaucoup sont d'accord un peu avec ce que vous nous dites, Alice de Rochechouart, dans votre livre, je le rappelle ici, privilège ce qu'il nous reste à abolir. Néanmoins, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais enfin, est-ce qu'en France, on est bien placé pour autant critiquer notre société ? Enfin, il y a quand même beaucoup de sociétés dans le monde qui sont beaucoup moins égalitaires que la nôtre, où les gens ont moins de chance finalement.
Oui, oui, c'est vrai, mais je ne suis pas sûre que ce soit un argument qui empêche de vouloir améliorer la société dans laquelle on vit.
Certes pas. Hein.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une situation qui empire quand même, hein, une augmentation des inégalités, de la précarité. Enfin, on est quand même dans un moment un petit peu particulier, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de déverrouiller notre imaginaire, de se dire qu'on pourrait envisager un autre système. Il y a toujours plus mal loti que soi, mais si on se met dans cette perspective-là, on organise notre propre impuissance, alors que là, l'idée, justement, à mon avis, de trouver un optimisme et une volonté de faire autrement.
Quentin. Là, cette jeune femme qui marchait vite parle d'une différence qui s'observe dans les études supérieures, dans les codes. Elle-même, les codes. À quel point c'est aussi un plafond de verre difficile à enrayer, ça ? C'est intangible, les codes.
Oui, bah c'est le capital symbolique, le capital culturel dont parlait Pierre Bourdieu. C'est difficile à enrayer, c'est sans doute impossible à enrayer, mais la question c'est, est-ce qu'il faut l'enrayer ? Est-ce qu'on veut encore... Parce que en disant on veut enrayer ces codes-là, c'est qu'on veut finalement faire le jeu de cette hiérarchie, de se dire, bah, je vais adopter les codes de ceux qui sont là-haut, je vais essayer de leur ressembler.
Vous voulez faire exploser les codes ?
Bah, pourquoi pas ?
Ça ressemblerait à
quoi ? Ou en tout cas, peut-être pas les faire exploser, mais égaliser leurs valeurs. De pas dire qu'il y a des codes qui sont préférables par rapport à d'autres. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que si on se dit qu'il y a des codes qu'il faudrait imiter, à ce moment-là, on veut obtenir le privilège. On ne veut pas défaire la structure, on cherche à l'obtenir. Alors moi, mon but, c'est qu'on arrive dans une société plus égalitaire, où chaque personne est reconnue à sa juste valeur en tant que telle.
Oui, mais ce qui ressort aussi un peu du micro-trottoir de Quentin, c'est qu'on est tous le privilégié de quelqu'un.
Absolument, absolument. Et c'est ce que je montre dans le livre, c'est que moi je parle d'une tresse des privilèges, je montre qu'il y a un certain nombre de hiérarchies, il y a beaucoup de hiérarchies, alors vous en avez évoqué quelques-unes tout à l'heure, la classe sociale, le genre, l'orientation sexuelle, la couleur de peau, on peut rajouter l'âge, puisque les personnes âgées et les enfants sont aussi dominés dans la société, et les animaux, je sais que vous avez fait un épisode hier, une émission sur l'élevage intensif, et c'est une des dominations dont on commence à parler aujourd'hui, actuellement. Oui, nous sommes toutes et tous le privilégié et le non, enfin sauf une toute petite minorité qui coche les fameux 1% dont on parle. Et justement, c'est ça qui doit nous mobiliser davantage, je pense. Ça doit nous dire, refusons ce système de hiérarchisation que nous avons intériorisé. Ouais. Parce que nous sommes tous et tous forgés notre psyché au sein de cette hiérarchie. Et en fait, je pense qu'il y a une formidable perspective d'abolir ces hiérarchies, de se dire, finalement, soyons tous et tous égaux. Ça peut paraître utopique. Moi, je pense que c'est un beau projet pour le 21e siècle.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
1815, Waterloo. Le fantassin Childéric Lacarrière recevait la médaille militaire des mains même de Napoléon pour acte de bravoure. Après avoir chargé les lignes ennemies, ivre mort, perdant peut-être un sac de vie, comme il appelait son testicule droit, mais y gagnant le respect éternel de l'empereur et surtout le privilège d'avoir une tente individuelle au campement. Aujourd'hui, dans le quiz, nous allons zoomer sur les privilèges les plus fous et les plus insoupçonnés. Jouons au Zoom Zoom Test. Un quiz qui, je préviens, risque de susciter pas mal de jalousie, comme la fois où Manon avait découvert que L'Oréal m'envoyait des produits gratuits alors qu'elle attend toujours son calendrier de l'Avent Passage du Désir depuis 2022.
C'est fou, hein.
Le premier de nos privilèges d'ultra-privilégiés est un sésame assez incroyable. Il y a fort à parier que Quentin serait prêt à vendre sa propre mère pour en bénéficier. En même temps, il vendrait sa mère juste pour intégrer l'équipe de Nagui. Alors forcément, bref. Ce sésame, les amis...
Plus maintenant, c'est passé.
C'est fini.
Ouais,
seules quelques personnes au monde le détiennent. Warren Buffett, par exemple, ou encore Bill Gates. Ce sésame, c'est... la Mac Gold Card, qui permet de se péter le bide gratuitement au McDonald's à vie. La Starbucks Lifetime Card, qui permet de se boire des Pumpkin Spice Latte gratuitement à vie. Ou le Blériot Platinum Experience, qui permet de bouffer au Blériot gratuitement
B,
à vie.
B, A, non, Starbucks. B, non, c'est le truc de Starbucks.
Vous connaissez, vous aimez bien cette chaîne de café?
Yeah.
Yeah. Ouais. Non, pas forcément.
Ils écrivent Marion. Ah,
en fait, ils mettent, Marion
rien.
Sur le truc à chaque fois.
Oui,
c'est
oui. Non, la Marianoche, ils écrivent maintenant.
C'est une bonne réponse de Quentin, lui. Oui, Quentin.
Mais non.
Warren et Bill, des gars capables de se payer des risottos à 100$, doivent être vraiment contents de pouvoir manger gratuitement au McDo. Oh, mais c'est le principe de cette carte délivrée à quelques Happy Few et seulement 12 personnes tirées au sort lors d'une opération commerciale à Noël 2022.
C'est bien, ça.
On comprend enfin pourquoi Quentin avait cet aspect, on va dire, sphérique sur la photo de notre dîner de Noël cette année-là. Il faisait partie des heureux élus. À noter que McDo n'est pas le seul fast-food à avoir inventé ce type de gratuité à vie pour des stars qui n'ont aucun problème à se payer des fast-food. Quand Cyril a par exemple découvert que le chanteur Ed Sheeran, grand amateur de poulet frit, était détenteur d'une black card chez Nando's, chaîne de référence en la matière, son sang n'a fait qu'un tour.
T'es fait à courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas.
Cyril, qui n'est néanmoins pas à plaindre. Cyril qui n'est pas à plaindre. C'est puisque je rappelle que pour ses 50 ans, il s'est quand même offert Johnny Rock. Le sosie vocal de Johnny Hallyday.
Oh. Et c'est un vrai enregistrement.
C'est un vrai, ouais. C'était au mariage. Et s'il a pu le booker, c'est grâce à la plus sélecte de toutes les cartes bancaires. Celle dont le service conciergerie peut vous dégoter un éléphant de compagnie ou vous organiser un lâcher de papillon blanc au débeauté. Et même, vous avez un super prix, en l'occurrence 10 000 euros, sur un groupe de musiciens qui reprennent les tubes par-dessus une bande son karaoké. Cette carte, vous l'aurez reconnue, si vous avez déjà dîné avec Nagui une fois dans votre vie, c'est bien évidemment la très coûteuse Visa Infinite, Amex Centurion ou Mastercard World Elite.
B
ouais.
Bah B.
Ah non, je vais mettre C moi.
La Mastercard World Elite, vous l'avez déjà vue quand vous avez déjeuné avec Nagui?
Oui, ouais, il y en a 5.
Elle est très très belle.
Vous en avez une bien noire aussi.
Elle est très très belle, mais c'est malheureusement Manon qui a la bonne réponse, puisqu'il s'agit de l'Amex Centurion. Imaginez un peu, Quentin, si vous étiez l'heureux possesseur de cet Amex Centurion, petit rectangle en titane. Vous auriez accès à une conciergerie de luxe, vous pourriez rencontrer des personnalités encore plus prestigieuses que Pascal Obispo au Club Centurion. Alors, c'est vrai que le premier critère, c'est de posséder un compte bancaire et de bien faire chauffer son Amex. Pas évident pour le seul employé de Radio France à se faire payer par enveloppe hebdomadaire retirée à la compta. Le deuxième petit critère, c'est quoi pour avoir cet Amex Centurion? Une cotisation à 4 000 € annuels plus 5 000 € de frais de dossier la première année, parce que sinon c'est pas assez cher.
C'est cher.
20 000 € de dépenses mensuelles ou prendre l'avion au moins une fois par semaine.
Les trois.
A et B.
Ah non, A et B, ouais, tu dois avoir raison.
Oui. Erreur de Manon, bonne réponse de Quentin. Effectivement, 20 000 € de dépenses mensuelles. Dans mon entourage, je ne connais qu'une personne qui est éligible, Yann Marguet. Enfin, enfin, pour l'ultime question de ce quiz, conformément au terme de l'article 17.4 de la charte du Zoom Zoom Test, nous partons aux États-Unis en 1981. Cyril Lacarrière, qui a demandé et obtenu l'asile politique à l'Amérique de Ronald Reagan, après l'arrivée de l'archange du mal à l'Élysée, Mitterrand le Rouge, comme il l'appelle, se trouve dans un vol American Airlines pour Washington DC. L'alcool offert l'ayant mis de bonne humeur, il se met à discuter avec son voisin, un certain Steve Rushtein, sans savoir que Steve Rushtein est le seul détenteur de la carte voleur exclusive, crément à volonté toute la vie. Ce bon vieux Steve va ruiner la compagnie aérienne en abusant de son pass vol illimité, dont il est un des rares possesseurs au monde. Où Steve assistera à l'atterrissage depuis le cockpit grâce à sa carte American Airlines Excelsior.
B et C.
Ah ben... j'ai un doute maintenant, parce que c'est vrai que s'il a cette carte-là, c'est aussi... Je dirais bonne réponse de Quentin.
Non, mais...
mais oui, car il peut tout se permettre.
C'est pas surligné.
Ça mérite quelques explications.
Ah,
parce qu'elle regarde.
Mais elle regarde.
Elle trichait au Zoom Zoom Test.
Tous les jours.
Oh mon Dieu, vous démarrez avec moins 5 points demain. C'est honteux. Vous êtes la honte du service public.
Ça va, je me suis penchée pour regarder.
Écoutez bien ça, Jean-Marc Jancovici, c'est pour toi. En 80, American Airlines avait un gros besoin de liquidité. Il lance le programme American Airlines Air Pass, qui offre à ses détenteurs des vols illimités en première première classe et un accès illimité au lounge à vie. Le Steve, qui était un citoyen du monde bien carboné, va utiliser le pass plus de 10 000 fois, traversant l'Atlantique pour un déjeuner ou bien acheter un foulard à New York. En 2007, American Airlines est obligé de lui supprimer son pass qui coûtait environ 1 million de dollars à la compagnie par an. Visiblement, Jean Covici la connaissait pas celle-là. Défaite de l'écologie et victoire de Quentin, lui.
Quand même.
Comme demain d'ailleurs, puisqu'on est mort avec 5 points de pénalité, vous ne le rattraperez jamais.
Il y aura peut-être une question à 5 points. Qui sait ?
C'est possible, tout est possible dans le Zoom Zoom Test. Une société de privilèges, c'est pas comme ça qu'on décrirait la France a priori, et pourtant, il en reste pas mal à abolir des privilèges, comme le dit le livre de notre invitée, la philosophe Alice de Rochechouart. Alice, dans votre livre, vous estimez que le contrat social n'existe pas et qu'il est désormais transformé en tresse de privilèges. C'est quoi une tresse de privilèges ?
Alors, le contrat social, je reviens très brièvement là-dessus, c'est le principe philosophique qui organise notre modernité politique. C'est l'idée que les individus vont passer un contrat fictif, hein, les uns avec les autres, ils vont renoncer à leur liberté individuelle pour acquérir une liberté civile au sein de l'État. Voilà, pour le dire très brièvement. Donc, ce contrat social présuppose que les individus sont tous et tous égaux et égaux. Or, ce que je montre dans le livre, c'est qu'on est plutôt dans l'idée d'un contrat de domination, d'un ensemble de contrats de domination qui forment une tresse des privilèges. C'est-à-dire, on pourrait dire que le tissu social est formé de plusieurs fils qui sont chacun des hiérarchies et on est dans un entrecroisement de domination.
C'est là que j'interviens avec ma question contradictoire, ma chère Alice. Vous dites que toute la société est dominée par des positions de domination. Domination des riches, domination des hommes, domination des personnes blanches, domination des personnes valides. Si c'était vraiment le fondement de notre société, on ne chercherait pas à corriger ces dominations. Moi, j'ai l'impression que la redistribution permet quand même de corriger les inégalités. On progresse dans différents domaines. Les grandes écoles s'ouvrent à d'autres populations. Est-ce que on ne va pas trop vite quand on dit qu'on vit dans une société de privilégiés pour les privilégiés ?
Oui, alors, y a une tension en fait, qui est présente depuis la Révolution entre d'un côté une volonté, un désir égalitariste très fort en France, hein, quand même. Il ne faut pas non plus nier cet élan philosophique et idéologique à la Révolution. Et quand même un élitisme très fort aussi, un élitisme aristocratique et bourgeois qui est présent. Et la société est finalement en tension entre ces deux tentations, si j'ose dire. Et donc, il n'est pas tout à fait étonnant, puisqu'on va tout le temps brandir l'idéal de justice sociale, liberté, égalité, fraternité. On ne peut pas complètement dire, bah non, en fait, c'était une arnaque, restez à votre place. Donc, il y a toujours une manière, qui est parfois sincère et qui est parfois bien stratégique, pour apaiser un peu la situation, de gommer certaines inégalités pour en camoufler d'autres ou pour que le statu quo perdure. Si vous redistribuez un petit peu, vous apaisez les contestations et les colères sociales. Et par contre, celles et ceux, on va dire, qui dirigent, qui sont en haut, ont une place qui reste bien au chaud.
Vous faites aussi dans le livre le distinguo entre privilèges et avantages.
Oui, absolument. Alors, si je fais la différence, c'est parce qu'on entend très souvent dans le débat public parler des privilèges, par exemple des cheminots, des cheminots, des fonctionnaires, des profs. C'est quelque chose dont on entend très souvent parler. Et donc, j'ai voulu montrer qu'il ne s'agit pas de privilèges, mais qu'il s'agit d'avantages, ou plutôt même de compensation de désavantages. Dans le cadre des cheminots, c'est très clair. C'est une corporation où il y a de la pénibilité, travail le week-end. Et donc, ils ont conquis par la lutte et la contestation sociale, un certain nombre de désavantages ou des compensations de désavantages. Il ne s'agit pas de privilèges dans la mesure où ça ne participe pas à une structure plus générale de domination. En fait, quand on identifie ou quand on croit identifier un privilège, il faut toujours se demander, est-ce que cet avantage spécifique participe à une structure de domination ? Dans le cadre des cheminots, on voit bien que ce n'est pas les cheminots qui gouvernent la France. Donc, en fait, la réponse est évidente. Et d'ailleurs, les dernières mesures qui ont voulu supprimer ces avantages font qu'on n'arrive pas à recruter. Donc, ça prouve bien que ce n'était pas des privilèges, mais plutôt des compensations de désavantages.
Vous, Alice de Rochechouart, quand est-ce que vous êtes rendu compte que vous étiez privilégié ?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, ça ne s'est pas fait en un jour. Il n'y a pas eu un moment eureka, en fait, dans mon parcours. Moi, c'est vrai que j'ai grandi, alors, comme mon nom l'indique, hein, j'étais plutôt en haut de la pyramide. Donc, j'ai grandi dans cette... J'ai été biberonnée au mérite. J'ai entendu des discours comme il y avait dans le micro-trottoir toute ma vie ou toute mon enfance. Et donc, j'ai intériorisé cette domination pendant assez longtemps. Et c'est en rencontrant d'autres... En faisant de la philo, parce que la philo va sauver le monde, mais aussi en écoutant d'autres d'autres gens parler, me partager leurs expériences. Et donc finalement, j'ai pu écouter la matérialité, quelles étaient les conditions matérielles, les conditions de vie d'autres personnes. Un peu aussi le témoignage de la personne de Clara, il me semble, dans le micro.
Vous vous êtes débarrassée, entre guillemets, de vos privilèges aujourd'hui ?
Alors, excellente question, mais la réponse est très importante, c'est non. On ne peut pas renoncer à ses privilèges. Ah. Les privilèges, c'est pas un vêtement dont qu'on pourrait laisser au placard, ou un sac Vuitton, pour reprendre encore ce qu'on a entendu tout à l'heure. Moi, je ne pourrais jamais renoncer au fait d'être blanche, au fait d'être née dans une classe aristocratique et bourgeoise, d'avoir les codes, justement, parler des codes. Donc, je ne pourrais jamais renoncer à ça. Ça me paraît plus intéressant de se dire que les privilèges, c'est un exercice. C'est-à-dire qu'on exerce ses privilèges. C'est une situation de pouvoir par rapport aux autres. Donc, on ne peut pas renoncer à ses privilèges.
On peut en revanche...
Voilà, là, c'est la manière dont on va les exercer qui est importante et c'est un questionnement qui doit nous guider chaque jour. C'est une tâche politique permanente.
La suite dans Privilèges, ce qu'il nous reste à abolir chez Lattès. Alice de Rochechouart est avec nous. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Ah, l'heure, et je m'en réjouis, de découvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une série aujourd'hui, elle sent bon l'Angleterre du 19e et surtout l'aristocratie et la richesse des familles de cette époque. Certains auront reconnu la musique du générique de Downton Abbey. 6 saisons, 3 films, 15 Emmy Awards, plus de 120 millions de téléspectateurs dans le monde. La série anglaise est devenue culte. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vue, elle se déroule dans un château anglais, celui de la famille Crawley, des aristocrates installés dans le Yorkshire. On y suit les histoires d'amour de trois sœurs, les dynamiques de la famille et mon personnage préféré, la grande tante acariâtre mais attachante, interprétée par Maggie Smith. Mais la particularité de Downton Abbey, c'est qu'elle ne s'intéresse pas qu'aux gens privilégiés, justement. Elle se focalise aussi sur ceux d'en bas, ceux qui œuvrent dans l'ombre de la maison, les domestiques, les majordomes, les cuisinières, les femmes de chambre, dont la vie est tout aussi romanesque.
Et ça souligne le contraste entre les deux.
Exactement, car Downton Abbey est tout de même une plongée dans un monde de privilèges. Les Crawley vivent dans un luxe hors normes, repas servis à la minute près par des majordomes gantés, bal costumés pour chaque événement, de l'argent pour les bébés, sans oublier la vaste propriété entretenue par une armée de domestiques, toute leur existence repose sur une hiérarchie invisible et très très stricte. En parallèle, les domestiques, eux, vivent forcément dans des petites chambres. Très souvent, on les voit à la cuisine, ils acceptent qu'on leur parle mal et de se taire, surtout quand il le faut. Mais la grande idée de Julian Fellowes, le créateur de la série, c'est d'avoir fait cohabiter ces deux mondes et de montrer comment les grandes secousses de l'histoire viennent justement bouleverser leur quotidien. La série s'ouvre en 1912 avec le naufrage du Titanic, se poursuit avec la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, l'émancipation des femmes, l'évolution des rapports de classe. En filigrane, Downton Abbey raconte aussi la fin d'une époque, celle de l'aristocratie anglaise toute puissante, confrontée à la modernité et au déclin de ses privilèges.
Merci beaucoup Manon de nous avoir rappelé cette belle série. Je crois qu'il y a un film
qui va sortir le troisième.
Très bientôt.
Ouais. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Est-ce vraiment utile, chère Alice de Rochechouart, de vous présenter Pierre Courade ? Tout le monde le connaît, en tout cas tout le monde a un avis sur ce personnage haut en couleur.
Pierre Courade, il n'a pas l'air sympa. Hein.
Alors, Pierre n'est pas sympa, Pierre est tatillon, un défaut qui se transforme en qualité. Au moment de rédiger son petit carnet, Pierre, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur les privilèges en une minute chrono.
Oui, on a encore appris beaucoup de choses cet après-midi grâce à notre invitée, la philosophe Alice de Rochechouart, qui, comme son nom ne l'indique pas, s'insurge contre les privilèges, pas les privilèges de l'aristocratie de l'Ancien Régime, mais contre les privilèges nés paradoxalement au moment de la Révolution française. Pour Alice de Rochechouart, en effet, août 1789 a aboli des statuts, des privilèges juridiques, certes, mais pas les structures sociales qui légitiment les inégalités de richesse. On touche là à la définition même des privilèges, qui sont, d'après notre invité, les avantages injustes qui bénéficient à certains groupes au détriment des autres. En fait, pour elle, notre société moderne repose sur des pouvoirs de domination, l'homme sur la femme, le riche sur le pauvre, le valide sur la personne en situation de handicap. Le mérite lui-même est un leurre. Il faudrait donc tirer au sort nos représentants et ainsi chacun serait sur un vrai pied d'égalité démocratique. Rappelons néanmoins qu'il existe des leviers dans notre droit pour réduire les injustices, insuffisants peut-être, pas assez en tout cas d'après notre invité, pour démêler la tresse des privilèges, d'autant qu'il est impossible de se débarrasser d'un certain nombre d'entre eux.
Merci Pierre, mais vous savez, si le mérite était un leurre, vous ne seriez pas rédacteur en chef adjoint de Zoom Zoom Zen. Maintenant, on reçoit, alors attention, Marion Mésadorian, cette fois-ci, il n'y a pas de musique derrière vous, il faut y aller. Marion Mésadorian qui va nous parler des joies, des privilèges.
Ah oui, alors moi depuis hier, je suis en panique. Je me dis, ne finalise pas trop tôt ta chronique, parce qu'avec avec un Matignon, là, ils peuvent jusqu'à la dernière minute encore en faire des conneries. Bon, question du jour. Est-ce que le roi va laisser son siège, hein? 1789, on y est là, hein? Alice, je ne sais pas si vous avez lu dans les boules, mais vous êtes venue le bonjour, hein? Et alors, depuis hier, cet élan de générosité de la part de nos privilégiés, j'ai failli chialer, le cornu, il faut préférer son pays à son parti. Retailleau, je ne m'accroche pas à un fauteuil, je pense à mon pays. Attal, moi, j'ai juste envie que mon pays avance. Il a l'air incroyable, ce pays. Je ne comprends pas pourquoi toutes les fortunes menacent de se barrer. Ma voisine Christiane, elle aussi, elle veut se barrer, hein? Mais elle ne peut pas. Il n'y a plus une thune, Marion. Cette année à Noël, j'aurais même pas le privilège de voir ma famille. Le Paris-Marseille, il était déjà à 400 balles dès l'ouverture. Je savais pas qu'il y avait des classes business dans les Ouigo, hein. Alors, je serais peut-être solo pour la dinde, mais attends, le 24, j'aurais le privilège de m'acheter un super jean Shine au BHV. Excellent! Un petit jean en plastoc à 8 balles, cousu par des esclaves. Je n'attendais que ça. Oh, joyeux Noël, Christiane! Hein, le directeur du BHV, Frédéric Merlin, a dit « ça va faire le buzz ». Mais tu m'étonnes, mon gars, je connaissais pas ton nom, mais maintenant c'est sûr que je déguiserai plus mon fils en magicien. Il paraît que quand on se réincarne sur Terre, notre âme évolue. Bon, bah là, mon Fredo, il a bien régressé quand même, hein. Mais qu'est-ce que t'avais pas compris dans ta vie d'avant? T'as raté ta carrière d'influenceuse? Tu veux faire le buzz? Tu le feras pas chez Hidalgo, par contre, hein. Quand on voit ses tickets de dépenses, elle a pas acheté du shine, la coquine, hein. Et ça, bah coupez-moi le micro, j'ai loin. Et ses copains non plus. Le maire du 6e, Jean-Pierre Lecoq, si c'est pas français ça, il a acheté pour 745 € de chaussures pour femmes en un été. Alors soit il a viré sa cutie, soit il nous a bien niqué la gueule. Ah bah, il va même pas les mettre, ces godasses. Il va encore finir, ça va finir sur une plage au Ghana. On leur envoie 15 millions de vêtements chaque semaine qu'on veut plus mettre. 15 millions de jeans. Il n'y a que 365 jours dans l'année, hein. Donc même s'ils veulent changer tous les jours de tenue, on est généreux, mais il y a des limites quand même, hein. Je crois qu'ils peuvent faire des cadeaux de Noël sur 25 générations, on peut s'arrêter, hein. Et quand j'entends LCI, la 190e fortune de France, Catherine Barthélémy, Catoche, héritière de papa, dira une caissière droit dans les yeux en direct, on est dans un pays de pleureurs, où il n'y a plus d'optimisme. Et apparemment, depuis l'arrivée de Macron, mamie Catoche, elle est passée de 200 millions à 750 millions de fortune. Tu m'étonnes qu'elle manque pas d'optimisme, la bougre. Et à nous, elle nous dit, je trouverais ça joli que tous les Français s'engagent. Au lieu de prendre une semaine d'arrêt maladie un peu confortable, je n'en prends pas. Au lieu d'en faire durer un peu mon chômage, je reprends mon boulot un peu plus vite. Et ainsi de suite, jusqu'à mes 750 millions. Alors Manu, si tu veux pas te retrouver demain en slip, place de la Bastille, écoute Christiane, démarre la calèche maintenant. Faire les chevaux et dis à Brigitte de remplir ses sacs Chanel. Retour à Amiens, fissa.
Merci beaucoup Marion, mes adorés, on vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom Zen. Merci évidemment Alice de Rochechouart de nous avoir ouvert les yeux sur la persistance des privilèges. Je rappelle votre podcast Le Fil d'Actu et votre livre Privilèges, ce qu'il nous reste à abolir, aux éditions J.C. Lattès. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci beaucoup.
Zoom Zoom Zen.